Rachar, qui avait une affaire, en envoyait Rish Lakish. Parce que le Rachar, il pouvait tromper Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne sait pas ce que c'est être Rachar. Tandis que Rish Lakish, on ne pouvait pas le tromper. Alors, on envoyait Rish Lakish. Alors, c'est Joseph qu'on envoie à Esaü. Parce que Esaü peut mettre dans sa poche n'importe quel Judas. Tandis que Joseph, il ne peut rien. Oubliez Matthieu dans l'histoire. Enfin, la généalogie de Matthieu. Et voilà, le rêve de Isaac, le plan de Isaac, c'est que s'il y a amour entre les deux frères, alors l'antagonisme entre les deux vocations disparaît. Et c'est cela qui a manqué. Voilà l'élément qu'il faut ajouter pour résoudre le problème de cette équation. Il y a d'ailleurs, à l'intérieur de la famille de Jacob, le couple Zebulun et Issachar, c'est bien Issachar et Zebulun, qui ont la même alliance. L'un faisait le commerce et l'autre étudiait et il partageait. Faisait le commerce, faisait la piraterie maritime. les corsaires juifs. Eh bien, voilà donc quel est le problème. Je crois que il ne peut y avoir vraiment de réconciliation entre Esaü et Jacob que s'il y a amour entre Jacob et Esaü. Et Esaü et Jacob. C'est intentionnellement que j'ai dit ça comme ça. Que Esaü n'aime pas Jacob, on comprend. C'est difficile, un rachat de main de sadique. Mais le drame, c'est que Jacob n'aimait pas Esaü. Et on pourrait comprendre apparemment qu'un sadique ne peut pas aimer un rachat. Mais tant que ce sadique n'est pas capable de surmonter cette impossibilité, le rachat ne peut pas non plus le faire. C'est-à-dire, l'identité d'Israël dépasse, bouscule cette impossibilité Esaü-Jacob. C'est-à-dire, Israël est capable d'être Esaü tzadik, et il est capable d'être Jacob tzadik. Je crois que nous sentons dans la société israélienne ces types apparaître là. Ces quatre types, nous les avons autour de nous. Et ils sont très différents. Alors, je veux revenir sur ce point, en vous lisant un verset, vous donnez le temps de le retrouver dans la paracha, lorsque Rivka apprend qu'Esaü ne peut pas aimer Jacob. Comment s'est motivée cette haine d'Esaü contre Jacob? Alors, une minute, hein, je vais la trouver. Voilà, prenez le verset 41 du chapitre 27. Je vais traduire le verset. Chapitre 27, verset 41. Vous y êtes? Kavzaïm, même à l'œuvre. Vaïsto maïsa avec Yaakov, et Esaü haï Jacob, à la beracha, à cause de la bénédiction, à cher beracho aviv, dont son père l'avait béni. Alors, le pshat apparent, ce serait que Esaü haï Jacob, à cause de la bénédiction dont son père Isaac a béni Jacob. Okay? Mais regardez bien le texte. Le texte dit que Esaü a haï Jacob à cause de la bénédiction dont Isaac, son père, a béni Esaü, lui. Esaü a une tragédie. Il est béni par la bénédiction de l'épée. Prenez le verset 40. Ve'al harbecha tehi. Tu vivras de ton épée. Voilà à quoi il est voué. La fabrique des armes. Imaginez cette civilisation. J'hésite parce qu'il me semble avoir parlé de ça il n'y a pas très longtemps, mais je ne me rappelle plus où. Bon, imaginez cette civilisation qui a pour religion la religion d'amour, la civilisation des Aïe qui se prend pour Israël, et dont toute l'économie tourne autour de la fabrique des armes. C'est un drame épouvantable. Nous n'osons pas, nous, les rabbins, parler de ça aux prêtres lorsqu'on est en colloque. Okay? Parce qu'on ne veut pas trop leur faire honte. Mais, non, mais c'est vrai. Imaginez une civilisation pareille, dont l'industrie tourne avec pour objectif de se faire armer les peuples les uns contre les autres et de se faire massacrer. Parce que c'est ça qui se passe en Occident. L'Occident a porté la fabrique des armements à un point tel que pour des raisons économiques, il faut que les usines d'armement tournent. Le résultat, c'est que les uns tuent les autres sur la planète entière, s'entretuent avec les hommes occidentaux. Vous avez compris cela ? Et Israël est pris dans l'engrenage. Bon, mais finalement, qui a inventé ça ? C'est Martien de Romain. C'est sorti de la Pax Romana, les fabriques des chars d'assaut. On leur a donné un coup de main, puisque Dassault, c'était un juif, si l'on peut. Alors, imaginez ce drame. Ésaü haït Jacob, parce qu'il sait que sa part à lui, Ésaü, c'est l'épée, et que Jacob, lui, c'est le livre. Et alors, nous avons cette incapacité d'amour réciproque. Alors, je ne sais pas comment ça se dénouera, mais il semble qu'il y ait des signes qui montrent que peut-être... j'ai donné une fois comme image, entre Jacob et Ésaü, les deux mains. La main droite et la main gauche ne peuvent absolument pas coïncider. Vous ne pouvez pas faire coïncider une main droite et une main gauche. Il faudrait que l'une rentre dans la quatrième dimension et sorte dans la troisième. C'est pas possible. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est les faire s'étreindre. Eux, ils font ça comme ça. Alors, je ne sais pas quand ça arrivera, mais il faudrait qu'il y ait des raisons qui fassent que Ésaü aime Jacob et que Jacob aime Ésaü. Alors ça, je vais vous dire, ça c'est le niveau Israël. Je vous laisse le soin de le comprendre par vous-même. Parce que Jacob ne peut pas aimer Ésaü, et Ésaü ne peut pas aimer Jacob. Comment vous voulez qu'un tzadik aime un rachat ? C'est pas possible. Et comment vous voulez qu'un rachat aime un tzadik ? Par définition, le rachat a la haine du tzadik, parce qu'à côté du tzadik, un rachat, c'est vraiment un rachat. Alors c'est à cause du tzadik qu'il est rachat. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là ? Je vous fais une petite analyse très brève, une analyse sociologique de l'anticléricalisme. Qu'est-ce que c'est que l'anticléricalisme ? C'est quelque chose de très analogue à l'antisémitisme. En société goy, on haït les prêtres. Pourquoi ? Parce qu'à côté d'un prêtre, on se sent goy. Et c'est la même chose que l'antisémitisme. Vous avez compris ce que je veux dire ? Lorsque le tzadik apparaît, il disqualifie l'autre. Alors l'autre a la haine de celui qui l'a disqualifié. Mais vous voyez, c'est pas la même chose, antisémitisme et anticléricalisme. Mais c'est très parallèle. Est-ce que c'est clair ? Il y a une scène dans l'histoire biblique, lorsque la révolte de Korah contre Moïse, et quand Moïse demande le jugement de Dieu, et alors le peuple entier se révolte contre Moïse, tu veux notre mort à tous ? Et le peuple voit bien que c'est Moïse qui a raison, puisque Dieu intervient pour Moïse. Mais justement, c'est parce que Moïse a raison que les autres vont mourir. Alors, il y a la haine de Moïse, parce que c'est Moïse qui a raison. Si Moïse a raison, les autres ont tort. Mais à côté de Moïse, qui peut avoir raison contre lui ? Tout le monde a tort. Donc c'est Moïse qui est la cause qu'on a tort. Vous voyez comment ça marche ? Eh bien, c'est exactement ce même problème. Lorsqu'Ésaü s'aperçoit que le livre, c'est à Jacob et que lui, il a l'épée, il a beau se fabriquer une croix dont il se sert comme épée, d'ailleurs, ben, c'est ça qui est arrivé, il ne peut que haïr celui à cause de qui il est dans les... Il y a une haine du juif chez le chrétien. J'ai remarqué cela parce que... je peux vous le dire parce qu'on se parle avec eux. Les chrétiens qui aiment les juifs savent qu'ils sont moins chrétiens que les chrétiens qui haïssent les juifs. Je ne sais pas comment on veut dire ça, mais vous avez compris. Ils ont un doute dans leur christianisme. Comment un chrétien peut aimer les juifs ? Et c'est ce qui est en train de se faire. Il n'y a que des chrétiens déchristianisés qui peuvent avoir le courage d'aimer les juifs. Parce que imaginez, pour la conscience d'un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire avoir tué leur Dieu ? Ça rend les gens fous, des idées pareilles. Hein ? Tant que ce mythe travaillera, les juifs sont en danger. Parce qu'ils ont beau, avec leur intelligence, comprendre que c'est aberrant, et il n'en reste pas moins qu'affectivement, ça déclenche c'est dévastateur. Imaginez une foule sortant d'une église où ils ont compris que si Dieu est mort, c'est la faute des juifs. Comment voulez-vous qu'ils gardent leur sang-froid ? C'est pas possible. Bon, mais tout ça est en cours d'histoire. Alors je vous finis le verset 41. Et Ésaü haït Jacob à cause de la beracha dont son père l'avait béni. Vayomer Esav belibo. Et Ésaü dit en son cœur, Ikremou yemei la vie, Les jours de deuil de mon père arriveront, s'approcheront, Vahareza et Teakovachi, et je tuerai Jacob, mon frère. Ça veut dire que tant qu'Isaac est vivant, Esaü ne peut rien contre Jacob. Et c'est ce qui a joué dans l'histoire. Tant qu'Isaac est vivant, Esaü ne peut rien contre Jacob. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous décrypter ça, mais je vais... vous voulez que je vous décrypte ?
Oui, bon. C'est ça.
Eh bien, écoutez, on va prendre 5 minutes. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Demandez-moi, c'est moi, je suis fatigué. Bon. Écoutez, dans la typologie des communautés juives à travers l'histoire, il est bien évident que nous avons vécu deux rivalités, celle d'Ismaël et celle d'Ésaü. Or, la rivalité d'Ismaël a été vécue par les Juifs qui ont vécu chez Ismaël, c'est les Sfaradim. Et la rivalité d'Ésaü a été vécue par les Juifs qui ont vécu chez Ésaü, c'est les Ashkenazim. Les Ashkenazim sont les Juifs du monde d'Ésaü. Et les Sfaradim sont les Juifs du monde d'Ismaël, c'est clair. Ensuite, il y a eu des voyages, des mélanges. C'est l'agence juste une agence de voyage. Et elle prend des rolim des uns et en fait des yordim chez les autres. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde chrétien ? Dans le monde chrétien, le juif était interpellé sur un problème d'identité. Le chrétien disputait au juif le fait d'être Israël. Le juif ashkénaze était interpellé par cette espèce de revendication, c'est pas toi juif qui est Israël, c'est moi chrétien. Ça n'a jamais été le cas du juif sfarade. Le musulman n'a jamais dit au juif sfarade, c'est moi musulman qui suis Israël. Et le musulman deviendrait fou si on le traite d'Israël. Lui, c'est Ismaël. Okay. Seulement, il ne veut pas qu'Israël ait sa terre. C'est un tout autre problème. Je peux vous en parler pendant des heures, puisque je suis un sfaradi qui s'appelle Ashkenazi. Mais il est évident que c'est la relation au monde extérieur est très différente chez l'Ashkenazi et chez les Sfaradis. La relation au monde extérieur de l'Ashkenazi est une relation kafkaïenne. Comment le goy parle à l'Ashkenaz? Et le goy de l'Ashkenaz, c'est le chrétien. Eh bien, il lui dit, toi, c'est moi. Imaginez un drame. Toi, t'es toi, parce que toi, c'est moi. Alors que le problème chez le Sfarad est très différent. C'est pourquoi la relation au monde extérieur est beaucoup plus aisée chez un Sfaradi. Le goy du Sfaradi, c'est l'autre croyant. Tandis que le goy de l'Ashkenazi, c'est celui qui se prend pour moi. Vous voyez la différence? Un phénomène comme Kafka ne peut pas être Sfarad. Un phénomène comme Kafka, c'est Ashkenaz. Et dès qu'un Sfaradi vit en atmosphère Ashkenaz, il devient Kafka. Regardez Mémy, par exemple. Mémy est un Sfaradi kafkaïen. Mizrahi un peu moins, je dois dire, parce que Mizrahi est plus sioniste que Mémy. Mais enfin, c'est deux tipoutim sfaradim qui fonctionnent à l'Ashkenaz, et bien ils deviennent Kafka. C'est clair ce que je veux dire. Le problème de Kafka, c'est ça. C'est le fait qu'il est dans une cité étrangère où on se prend pour lui, ça rend fou complètement. J'ai étudié les différences de chants Ashkenaz et Sfarad. Les mélodies traditionnelles, c'est les mêmes, à l'origine. Et puis l'une devient majeure, l'autre devient mineure, et réciproquement, à travers des siècles et des siècles. Mais les mélodies traditionnelles, par exemple la lecture de l'Aftara surtout, à l'origine, c'est les mêmes. J'ai pas le temps ni la force ce soir de vous l'illustrer. Un jour, je vous ferai entendre le chant lituanien de l'Aftara et le chant algérien de l'Aftara. Vous verrez à quel point c'est la même mélodie, dans deux registres différents. Mais il ne reste pas moins que, indépendamment de l'influence du paysage musical extérieur, le chant ashkénaz traditionnel est un chant angoissé, ouais. Alors que le chant sfarad traditionnel est un chant nostalgique. C'est très différent. C'est vraiment très différent. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Ah oui. Et alors, ça veut dire que les ashkénazim ont vécu l'histoire d'Isaac chez Ishmaël. Leur problème n'est pas le même que celui des Ashkenazim, les Sfaradim. Oui, je vois que vous suivez. Les Sfaradim ont vécu le problème d'Isaac chez Ishmaël, qui n'est pas du tout le même que le problème d'Ésaü, de Jacob chez Ésaü. C'est clair. Bon, alors qu'est-ce qu'on a appris du verset ? Ésaü ne peut rien contre Jacob tant qu'Isaac est vivant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde Ashkenaz ? Dans le monde Ashkenaz, il est arrivé une érosion de l'identité religieuse par le christianisme. Et c'est la Kabbale qui est venue à l'aide des Ashkenazim. Alors la Kabbale est venue des Sfaradim. Est-ce que vous suivez le... Inversement, le problème du conflit entre Isaac et Ishmaël, c'est la terre, c'est pas le ciel. Bon, Tzahal, c'est les Ashkenazes qui l'ont fondé. Les soldats sont Sfaradim aussi. Mais qui a fondé l'État d'Israël? C'est les Ashkenazes. C'est-à-dire, c'est les Ashkenazim qui ont rendu à Isaac la terre que Ishmaël leur dispute. Les Sfaradim n'ont jamais quitté l'État d'Israël, mais ils étaient en ghetto chez les musulmans. Les Ashkenazim sont arrivés, on a eu un État. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, Jacob vient au secours d'Isaac contre Ishmaël, et Isaac vient au secours de Jacob contre Ésaü. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est clair? Et avec une espèce de clin d'œil de la Providence, celui qui a mis fin à l'orgueil des chrétiens contre les juifs, c'est un certain Isaac. Vous avez remarqué ça? Jules en plus. C'est vraiment un clin d'œil. C'est Isaac qui revient pour vérifier si c'est ce que dit la Bible était vrai, qu'Ésaü avait haï Jacob. Eh bien, il est venu, il a vérifié. Jules Isaac a vérifié que Ésaü haïssait bien Jacob. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans l'histoire des rapports de ces deux ensembles, l'œuvre de Jules Isaac, c'est la charnière. C'est au moment des 11 points de Seligsberg, qui a préparé Vatican II, enseignement du mépris, tout cela. C'est un historien juif qui a la coquetterie de s'appeler Isaac. Et pour faire bien dans le paysage, qu'il est bien chez Ésaü, il s'appelle Jules, comme le César. Vous avez remarqué ça? Bon, ça disons que c'est une coïncidence, mais il est clair quand même que il y a cette alliance, et nous l'avons dans le Midrash, que Jacob aide Isaac contre Ishmaël et qu'Isaac aide Jacob contre Ésaü. J'ai remarqué une chose extrêmement claire. Il n'y a aucune tradition ashkénaze de la controverse avec les chrétiens. Toutes les traditions de la controverse avec les chrétiens sont sfarades. Parce que le sfarade est décomplexé vis-à-vis du chrétien. Le goy du sfarade, c'est le musulman. Et puis il rencontre une espèce d'exotique du Nord qui se prend pour Israël. Alors imaginez la décontraction. Tandis que l'Ashkenaz en plein dans le monde chrétien est interpellé par une question d'identité. Et peut-être c'est lui. Question qu'il ne peut pas effleurer à ce moment-là. Tant qu'il est séparable, bien sûr. Est-ce que c'est clair Je veux dire la blague que disent les juifs polonais et des juifs lituaniens. J'espère qu'il n'y a pas de juifs lituaniens parmi vous. Polonais. Les juifs polonais disent des juifs lituaniens qu'ils ont une croix à l'envers dans le corps, dans le cœur. C'est-à-dire, les juifs lituaniens ont peur que peut-être à l'envers, c'est les chrétiens qui n'ont pas raison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont emberlificotés dans cette histoire. Et alors, mais ça j'ai remarqué effectivement, il y a un tabou dans la tradition ashkénaze, on ne parle pas avec les chrétiens. On ne parle pas avec les chrétiens. Il y a un tabou sur la personne de Jésus, sur les chrétiens, on ne se mêle pas de ça, on ne touche pas. Tandis que les sfaradim sont décontractés là-dedans. Et essayez de comprendre ça, parce que vous connaissez les sfaradim de culture européenne. Les sfaradim sont de culture judéo-arabe. Alors imaginez un juif dont le goy était le musulman qui rencontre un espèce d'huluberlu roux qui lui dit c'est moi Israël. Il rigole, je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré un, je veux dire, moi je suis du temps des lampes à huile, avant la guerre mondiale, la première fois que j'ai rencontré un juif ashkénaze en Algérie, il était roux d'ailleurs, il mettait les tefilines, il mangeait cachère. Pour nous, c'était le Messie est arrivé, un Européen qui mange cachère, d'où ça sort? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, l'inverse est un peu décalé. Je me rappelle quand ma fiancée a parlé de moi à ses amis ashkénazes, ils lui ont dit, mais alors, avec un naturel, quand tu vas te marier avec un juif arabe? Imaginez pour les ashkénazes la découverte de juifs arabes. Alors imaginez pour les sfaradim la découverte de juifs chrétiens. Oui, non. Alors lorsqu'on a eu les chrétiens vraiment en face, on était vraiment décontractés. Bon, maintenant les ashkénazim sont habitués. On leur a enseigné le courage de parler aux chrétiens. Il y a maintenant des ashkénazes dans les dialogues judéo-chrétiens. Dans ce cas, c'est en général ceux qui freinent. Ceux qui disent, on ne touche pas à la théologie. On a peur. Je ne sais pas si ceux qui sont occupés de ces choses-là, vous avez senti ça. Okay.
En Israël, ils ont changé.
Quoi ?
En Israël, ils ont changé.
Alors, je veux dire, en Israël, les uns et les autres, le problème chrétien, ça ne préoccupe personne. Non, mais c'est vrai. Ça préoccupe des spécialistes qui luttent contre les missions. Parce que vous savez que les chrétiens lisent un verset qui mission tessetor. Mais vraiment, un Israélien moyen, vous lui direz qu'il y a un danger chrétien, il va vous regarder de quoi tu parles. Bon, eh bien, oui, tu as une question.
Moi, j'ai le sentiment que Jacob n'aurait pas pu devenir Israël s'il n'avait pas été confronté à Esaü. Donc il y a quand même, dans ce monde, une interrogation. De la même manière que Israël se grandit à partir de chez Ibn Malchouyot, est-ce qu'il n'y a pas quand même un mauvais scénario dans ce monde qui fait que le monde peut devenir bon que lorsqu'il se confronte au mal? C'est quand même pas une tare de ce monde de passer par des scénarios de ce genre?
J'ai pas vraiment compris ta question.
Je vais répéter.
Non, ne répète pas, explique.
Il y a quand même quelque chose dans ce monde, comme s'il y avait quelqu'un qui écrivait toujours le même scénario. Il ne peut pas y avoir un héros s'il n'y a pas un bandit en face de lui.
Un anti-héros.
Alors, quand même, est-ce que c'est quand même pas une imperfection de ce monde de passer par un creuset dramatique pour pouvoir aboutir à quelque chose de bon?
Ah ben voilà, je crois que j'ai commencé à comprendre. Mais c'est exactement ça, ce monde-ci. C'est un monde...
C'est une imperfection?
Non, tu es en train de découvrir la première partie du cours, que nous sommes dans un monde embryonnaire. Nous sommes dans le monde de l'embryon. Et il faut naître. Et il faut engendrer le Fils de l'homme. Nous sommes dans un monde où nous avons un apprentissage à faire, où nous avons une preuve expérimentale à faire. Nous sommes dans un monde qui est fabriqué du bien et du mal. Et nous sommes mis dans ce monde qui est fabriqué du bien et du mal avec une interrogation. Qu'est-ce que tu préfères ? Celui qui va nous inviter chez lui là-haut après veut savoir qui on est. Alors il nous fait passer des tests. Et vous savez qu'il y a deux sortes de tests. Il y a l'ancien test amant et le nouveau. Non, mais l'objet du test, c'est est-ce qu'on est capable d'aimer. Ça s'appelle un test amant. Alors qu'il y a l'ancien test. Non, mais tu découvres le problème. Effectivement, il y a un scénario qui est le problème qui nous est posé. Ce que quelqu'un a étudié le Sefer HaTanya, pas de Chassidim parmi vous? Le Sefer HaTanya, des Chassidim. Bon, le Sefer HaTanya cite une braïta qui dit, quand un enfant va naître, un ange lui dit, Tehi tzadik ve'al tehi racha. Sois tzadik et ne sois pas racha. Tu vas entrer dans un monde où c'est ou l'un ou l'autre. Et aussi les deux à la fois. Alors méfie-toi, à la fin du parcours, on va te demander qu'est-ce que tu as été. Est-ce que tu as été tzadik ou est-ce que tu as été racha? Donc tu as raison, effectivement, nous sommes dans un monde où l'enfant qui naît de Isaac et de Rivka doit décider est-ce que je serai Jacob ou est-ce que je serai Esaü.